Chapitre 2. Son étoile l'entraînait. D'un pas délibéré, le général franchit la petite porte du jardinet qui donnait accès à la maison. Avec mépris, il écarta du pied un petit chien poilu et enroué qui, plutôt par convenance que par devoir, cherchait à se lancer dans ses jambes en poussant un aboiement rauque. Ivan Ilitch longea les clés qui menaient à la véranda, monta les trois marches vieillottes qui le rapprochaient de l'entrée. Il y avait bien là un bout de chandelle ou quelque chose de semblable, mais cette vague lumière n'empêcha point le visiteur inattendu de marcher dans un plat de galantine qui refroidissait dans un coin. Ivan Ilitch se baissa curieusement et vit deux autres plats avec du blanc mangé. La galantine écrasée lui causa bien quelques gênes, et une pensée fugitive lui souffla l'idée de fuir. Même maintenant, le général lui considérait cette retraite comme une lâcheté, d'autant plus qu'il n'avait été aperçu par âme qui vive. D'un geste prompt, il essuya sa chaussure pour anéantir l'épreuve de sa maladresse, tâta une porte, l'ouvrit, et aussitôt se trouva dans une petite entrée dont une moitié était encombrée par des manteaux, des fourrures, des bonnets, des écharpes et des galoches, tandis que l'autre moitié servait d'asile à quatre musiciens. Deux violons, une flûte et une contrebasse, cueillis bien entendu dans la rue. Assis autour d'une table en bois blanc, au milieu de laquelle agonisait une chandelle, ces artistes terminaient avec ardeur une figure du quadrille. La porte ouverte laissait apercevoir des danseurs qui se démenaient dans un nuage de poussière et de fumée. Une gaieté infernale paraissait régner dans la pièce. On entendait des rires et des piaillements féminins, cependant que les danseurs battaient des talons, on eût dit d'un escadron de cavalerie. Au-dessus de tout ce sabbat, planait la voix du conducteur des danses, jeune homme aux manières libres et dégagées, qui s'égosillait en commandement. « Les cavaliers en avant, chaîne de cam, balancez, etc., etc. » Ivan Ilitch, un peu ému, quitta sa fourrure et ses caoutchoucs, puis pénétra dans la salle, son bonnet à la main. Du reste, il avait cessé de raisonner. Au premier moment, personne ne le remarqua, l'assistance entière s'adonnant aux quadrilles. Il resta ainsi quelques instants comme abasourdi et sans pouvoir distinguer quoi que ce fût dans ce méli-mélo où s'agitait une trentaine de personnes en sueur. Les robes des dames le frôlaient rapidement au passage. Les danseurs, la cigarette aux lèvres, lui lançaient la fumée à la figure. Une écharpe bleu clair lui chatouilla le nez. Puis ce fut un étudiant qui, en tournoyant, les cheveux au vent, le gratifia d'un fort coup de coude. Derrière lui venait, long comme un poteau indicateur, un officier glapissant de joie. Ivan Ilitch sentait sous ses pieds quelque chose de collant. On avait vraisemblablement ciré le parquet. Quelques minutes passèrent. Le quadrille terminé, le mouvement s'arrêta brusquement. C'est alors que l'événement historique commença à se dérouler selon les prévisions du général. Une sorte de murmure inaccoutumé se leva soudain et passa sur les assistants qui n'avaient pas encore eu le temps de se remettre, de respirer et d'essuyer la sueur qui coulait le long des fronts. Tous les visages se tournèrent vers le nouvel arrivant. Un vent de panique souffla et la foule se mit à reculer. Ceux qui n'avaient pas encore compris étaient vite avertis par les tiraillements brusques que les voisins imprimaient aux basques de leurs vêtements. Se retournant aussitôt, ils suivaient le mouvement général. Quant à Ivan Ilitch, toujours debout sur le pas de la porte, il constatait, avec un sentiment de gêne, que la distance le séparant des convives croissait d'un instant à l'autre. Le vide qui s'ouvrait devant lui s'élargissait sans cesse, découvrant le parquet couvert de souillures et parsemé de bouts de papier d'étain, enveloppes de boutons, bonbons disparus de coquilles, de noix et de mégots. Et ce vide inattendu, désespérant, grandissait, grandissait toujours. Puis l'espace s'anima. Un jeune homme, vêtu d'un frac d'uniforme, venait d'y pénétrer, et le général retrouva dans son souvenir cette blondeur fade des cheveux ainsi que la courbe de ce nez qui s'allongeait démesurément. C'était Pseldonimov en personne, qui s'avançait doucement, et tout son être exprimait cet air de soumission avec lequel le chien contemple son maître au moment où celui-ci l'appelle pour le gratifier d'un coup de pied. « Bonjour, Pseldonimov, je vois que tu m'as reconnu !» s'exclama le général tout joyeux. Mais déjà, tout en se rendant compte de la maladresse de son interpellation, il commençait à comprendre qu'il était en train de commettre une des plus grandes bêtises de sa vie. « Votre Excellence !» bégaya le gratte-papier. « Bonsoir, bonsoir, mon ami !» « Comme tu vois, j'arrive par hasard, tout à fait par hasard. Tu pourras juger par toi-même. » Mais Pseldonimov était visiblement hors d'état de juger quoi que ce fût. Muet et comme pétrifié, il demeurait là, les yeux hors de la tête et figé dans une indicible épouvante. « Tu ne vas pas me chasser, j'espère. Content ou non, l'hospitalité t'oblige à me garder. » continua Ivan Ilitch, qui sentait grandir sa propre confusion. L'interpellé ne pouvait sortir de sa torpeur et continuait à contempler son chef avec un air parfaitement stupide. Un instant, Ivan Ilitch eut l'idée de sourire, mais n'y parvenant pas, il constatait maintenant l'accroissement progressif de la gêne. Le doux rêve qu'il avait échafaudé sur le trottoir d'en face s'éloignait, emportant avec lui la possibilité de placer le petit récit humoristique fait pour rompre la glace. À qui donc le général pouvait-il décemment adresser son petit monologue? Certes pas à cette bûche hébétée de Pseldonimov. Un courant électrique traversa instantanément le corps du général, qui, le cœur serré, attendit l'accomplissement fatal de quelque chose d'inattendu et d'infiniment stupide qu'il n'osait pas même se figurer. Il fit néanmoins un effort désespéré. « Oh, je vous gêne peut-être, je m'en vais, » bredouilla-t-il. Sa voix s'étranglait dans sa gorge et sa lèvre inférieure tremblait convulsivement. Revenant enfin à lui, Pseldonimov se plia en deux. Une fois, deux fois, trois fois, il bafouillait. « Votre Excellence, je vous prie, dédaignez l'honneur !» Et pris soudain d'un héroïsme qu'on ne lui aurait jamais supposé, il se précipita vers le canapé qu'on avait, en vue des danses libérées de la table, que d'ordinaire il flanquait. « Veuillez prendre place !» articula le malheureux subordonné. Ivan Ilitch, l'âme un peu reposée, se laissa choir sur le siège délabré, qui émit aussitôt un râle infiniment triste. Un regard autour de la salle lui fit constater que seul il était assis. Le reste de la société, y compris les dames, demeurait debout. Ce présage lui parut mauvais, mais il ne tenta rien pour faire cesser cet état de choses, considérant que l'heure des tolérances n'était pas encore sonnée. Les convives continuaient à reculer, et Pseldonimov occupait le milieu de la pièce, sans un sourire sur sa face ingrate. « Mon Dieu, mais comment pourrais-je me sortir de là ?» se demandait le malheureux général. À vrai dire, le malaise dont il souffrait à ce moment était si grand que son invasion Harum el-Rachidesque, décidée au nom d'un principe, pouvait aisément prendre place parmi les actions héroïques de l'histoire. Le salut ne se trouvait pourtant pas bien loin. Déjà, un petit homme se plaçait à côté de Pseldonimov en esquissant fort ce salut. Avec un plaisir immense et même, pourrait-on dire, à sa grande joie, Ivan Ilitch reconnut un des chefs de bureau de son service, Akim Pietrovitch Zubikov, qui savait être un homme de valeur, obéissant et silencieux. Le général se dressa aussitôt, et le sourire sur les lèvres tendit à Akim Pietrovitch, non deux doigts, mais sa main entière. Celui-ci emprisonna la dextre de son supérieur entre ses deux mains osseuses. Rasé de frais, sa face exprimait le plus profond respect. Tout était sauvé. Ah, le général triomphait. Il respira librement. L'apparition providentielle d'Akim Pietrovitch apportait le salut. Le petit chef de bureau pouvait aisément suffire à remplacer tout un auditoire pour le récit humoristique. Quant à Pseldonimov, qui désormais passait du second au troisième plan, il était libre de garder son attitude de parfaite imbécilité. Celle-ci pouvait même au besoin passer pour de la vénération. Mais le récit était absolument indispensable comme entrée en matière. Ivan Ilitch, je voyais cela, la curiosité que manifestait l'auditoire, grossie encore par de nombreux familiers, servantes et autres, qui se groupaient aux portes, attendant quelque chose. Le seul obstacle à la bonne marche des événements se trouvait maintenant dans l'attitude par trop soumise du vieux fonctionnaire qui s'obstinait à rester debout. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Fit Ivan Ilitch en lui désignant une place à ses côtés. Oh, excusez-nous, je suis très bien ici. Et Akim Pietrovitch s'assit vivement sur une chaise que venait de lui tendre Pseldonimov. Écoutez l'histoire extraordinaire qui vient de m'arriver, débuta Ivan Ilitch en s'adressant exclusivement à Akim Pietrovitch. Sa voix, bien que plus assurée, déjà tremblait encore. Il étirait ses mots, les séparant, accentuant les syllabes. Tout en ayant conscience de jouer la comédie, le général ne pouvait arriver à se dominer. Une force extérieure l'en empêchait et le faisait souffrir infiniment. Figurez-vous que je viens de chez Stefan Nikiforovitch, dont vous avez certainement entendu parler, le conseiller intime. Alors, vous savez qui siège dans cette commission ? Akim Pietrovitch s'inclina respectueusement, en se pliant en deux, comme s'il eût voulu dire « Bon, il serait impossible de ne pas le savoir. » Il est maintenant ton voisin, continua Ivan Ilitch en s'adressant par politesse à Pseldonimov. Mais voyant aussitôt dans les yeux de son subordonné que cette information le laissait parfaitement froid, le général se tourna de nouveau vers le chef de bureau. Ainsi que vous le savez, le vieux avait toute sa vie rêvé d'avoir sa maison à lui, continua-t-il avec une nonchalance du meilleur ton. Il vient donc de l'acheter. Oh, une très jolie maisonnette, au surplus. Oui, il est arrivé aussi que son anniversaire coïncidait avec cet événement. Oh, il l'avait longtemps et très soigneusement dissimulé. Par avarice, peut-être. Mais maintenant, il est tellement heureux de se voir propriétaire qu'il nous a invités, moi et Semen Ivanovitch. Vous connaissez sans doute Chipulenko. Akim Pietrovitch se courba de nouveau avec un zèle louable et bien fait pour réjouir Ivan Ilitch. Ce dernier avait déjà soupçonné son subalterne de vouloir se donner de l'importance en se considérant comme une sorte de levier indispensable à son excellence. Alors, il nous a offert le champagne, on a causé, d'affaires bien entendu, et même discuté quelque peu. Akim Petrovitch leva respectueusement les sourcils. « Mais l'affaire n'est pas là, » continua le général. « Je prends congé, car vous n'ignorez pas que le vieillard se couche de bonheur. Là, je l'exige, vous comprenez. Je sors, mon Trifon n'est pas là. Je demande, je m'inquiète, mais où est passée ma berline ? J'apprends les causes de cette absence. Mon cocher était parti à la noce d'une sœur ou d'une commère, je ne sais plus rien. Il croyait sans doute que je resterais plus longtemps. Enfin, le diable l'emporte. Il l'a même si bien emporté qu'il a pris ma berline avec. » « Mon Dieu !» s'écria Akim Petrovitch, qui semblait terrifié à l'idée de la liberté qu'avait prise le cocher. Un petit murmure d'étonnement fusa dans la foule. Le général regarda encore une fois Pseldonimov, qui restait impénétrable et comme indifférent au récit des malheurs de son chef. « Oh, il n'a certes pas de cœur ni de pitié, » pensa-t-il. « Songez donc à ma situation !» Ivan Ilitch regarda les convives. « Rien à faire, il m'a fallu partir à pied. Je pensais ainsi aller jusqu'à la grande perspective où j'espérais trouver un Vanka quelconque. « Hi, hi, hi !» accompagna respectueusement Akim Petrovitch. Un nouveau murmure, mais cette fois-ci plus gai, anima l'assistance. À ce moment, un verre de lampe craqua. Quelqu'un se précipita aussitôt pour remettre les choses en ordre. Pseldonimov, soudain sorti de sa torpeur, regarda la lampe avec sévérité, mais le général n'avait rien remarqué et tout redevint calme. « Je marche dans la nuit, qui, savez-vous, est belle. Soudain, j'entends la musique. Je m'adresse à un agent. « C'est Pseldonimov qui se marie, » me répond l'agent. Le général s'arrêta et s'adressant cette fois à Pseldonimov, « Ah, mes frères, tu donnes des fêtes qui s'entendent dans toute la Pebusvuskaya Storona. « Hi, hi, hi !» fit entendre Akim Petrovitch. Le bruit des rires réveilla les convives qui poussèrent quelques gloussements respectueux. Cependant, le héros de la fête, le malheureux Pseldonimov, qui s'inclinait à chaque instant, ne pouvait arriver à sourire. Mais était-il donc en bois ? « C'est un imbécile !» songea Ivan Ilitch. Un âne lui-même se serait mis à rire en entendant un récit pareil. Oh, mais s'il voulait seulement tout tirer comme sur du beurre. L'impatience souleva le cœur du général. Alors je me dis, entrons chez notre subordonné. J'espère qu'il ne me chassera point. Content ou non, il sera obligé de recevoir un hôte. Allons, frère, excuse-moi. Dis-moi si je te gêne en quoi que ce soit, je m'en irai. Je viens simplement voir ce qui se passe chez vous. » Pseldonimov, à qui s'adressait cette dernière question, ne répondant toujours pas, Akim Petrovitch, qui considérait le général avec une douceur toute particulière, prit sur lui de ululer mielleusement. « Oh, comment, votre excellence peut-elle seulement penser qu'elle nous gêne ?» Les convives, en bougeant, donnaient les premiers signes de familiarité. Presque toutes les dames étaient déjà assises. Bon, c'était un bon signe et d'excellent augure. Les plus audacieuses sortirent même des mouchoirs pour s'éventer. L'une d'elles, vêtue d'une robe de velours un peu usagée, se permit en outre de dire quelque chose à haute voix. L'officier à qui elle s'adressait voulut lui répondre encore plus haut, mais le silence général ayant accueilli leurs propos, ils s'aperçurent qu'ils n'étaient que deux à causer et se turent aussitôt. Les hommes, des petits fonctionnaires ainsi que quelques étudiants, échangeaient des regards, se donnaient des coups de coude et remuaient en tous sens. La crainte passée, les convives contemplaient l'intrus avec quelque hostilité. L'officier, qui maintenant reconnaissait son manque de courage de tout à l'heure, cherchait sans doute à réparer la chose en s'approchant peu à peu de la table qui voisinait avec le canapé. « Ah mais, frère, permets-moi de te demander ton prénom et ton patronyme, » dit Ivan Ilitch en s'adressant à Pseldonimov. Celui-ci se dressa aussitôt et dans un aboiement. « Porfir Pietrovitch, votre excellence. Mais présente-moi donc à ta jeune épouse, Porfir Pietrovitch, mène-moi vers elle. » Le général fit mine de se lever. Même Pseldonimov courait déjà de toutes ses jambes à travers le salon. La jeune mariée, qui pendant toute la durée de la conversation était demeurée dans le voisinage du canapé, se cacha aussitôt qu'elle comprit qu'il était question d'elle. Cette précaution fut vaine, car il ne se passa pas une minute, et Pseldonimov revenait déjà vers le général, traînant son épouse par la main. La foule s'écarta pour les laisser passer, et Ivan Ilitch, se dressant cérémonieusement, esquissa un sourire des plus aimables. « Très heureux de pouvoir faire votre connaissance, » fit-il avec un demi-salut très mondain. « Dans une journée pareille, surtout !» Fleurissant sur ses lèvres, une petite moue malicieuse donnait à penser. Aussi les personnes du beau sexe, qui avaient compris cette délicate allusion, se rengorgèrent aimablement. « Oh, charmant !» articula la dame en robe de velours. La jeune mariée valait bien Pseldonimov. Petite, maigriotte, âgée de 17 ans environ, elle avait une mince figure pâle ornée d'un nez pointu. Ses petits yeux vifs fixaient le général sans gêne et, dirons-nous, avec une certaine méchanceté. Son cou maigre sortait d'une robe de mousseline blanche doublée de rose, et ses épaules pointues, ses bras décharnés, la faisaient ressembler à un poulet déplumé. Elle ne sut que répondre au compliment du général. « Elle est très gentille, » continua celui-ci, en s'adressant à l'heureux époux. Il parlait assez fort pour que la jeune femme l'entendît. Pas de réponse, et cette fois-ci même point de salut. Disons mieux. M. Pralinski remarqua dans les yeux de Pseldonimov quelque chose de dissimulé, de froid, de particulièrement hostile. Et cependant, il fallait coûte que coûte arriver à provoquer la confiance. N'est-ce pas uniquement pour cela que le général était venu ici ? Ben voilà un couple, songea-t-il, enfin. M. Pralinski s'adressa donc de nouveau à la jeune femme qui avait déjà pris place auprès de lui sur le canapé, mais les réponses se limitèrent à des oui et non, et encore étaient-elles faites mal à propos. Oh, si seulement elle voulait se montrer un peu confuse, pensa le général profondément découragé. J'aurais plaisanté, j'aurais essayé de la faire rire. Tandis qu'ainsi, ma situation devient sans issue. Et elle l'était en vérité. Car, pour comble de malheur, Akim Pietrovitch se taisait. Le pauvre diable ne faisait certes pas exprès, mais cela ne diminuait en rien sa faute. Au comble de la désolation, le dignitaire, qui ne savait que devenir, s'adressa à l'assemblée entière. « Messieurs, est-ce que vraiment je ne vous dérange point ?» demanda-t-il. Il lui sembla à ce moment que les paumes de ses mains se mouillaient de sueur. « Mais non, excellence, pas du tout. Veuillez donc ne point vous inquiéter, » répondit l'officier. « Nous prenons un peu de repos en attendant de recommencer. » Un petit murmure approbatif souligna les paroles du militaire que la jeune mariée considérait avec plaisir. Il était encore jeune et portait l'uniforme d'un régiment quelconque. Le général respira et regarda Pseldoninov, qui demeurait toujours près de lui, le nez de plus en plus allongé. Il était là, debout comme le valet qui, la fourrure du visiteur à la main, attend la fin de la conversation d'adieu. Cette comparaison s'imposa à Ivan Ilitch lui-même, qui, se voyant définitivement perdu, ne pouvait se débarrasser d'une sensation de gêne pesante. Il constatait que le terrain fuyait sous ses pieds, qu'il s'enfonçait sans espoir dans la mare où il s'était aventuré si mal à propos, et qu'enveloppé de ténèbres, jamais il ne parviendrait à en sortir. Plongé dans un muet accablement, le général ne remarqua même pas que les invités s'écartaient maintenant pour laisser passer une femme petite mais corpulente et déjà âgée. Bien qu'elle fût vêtue simplement, sa mise témoignait toutefois de quelques recherches. Elle avait au cou un fichu de soie épinglé et une coiffe de dentelle, au port de laquelle elle n'était visiblement pas habituée. Surmontait ses cheveux grisonnants. Elle tenait dans ses mains un plat rond sur lequel reposait une bouteille de champagne à peine entamée, flanquée de deux coupes. Nous disons bien deux coupes, car le vin était destiné aux seuls convives de marque. La dame s'approcha du général. « Ne soyez pas trop exigeant, votre Excellence, » dit-elle en s'inclinant très bas. Vous avez bien voulu faire l'honneur à mon fils de venir à sa noce. Daignez donc boire à la santé des jeunes mariés. Ah, c'était là une véritable planche de salut, et Ivan Ilitch s'y accrocha désespérément. Pas encore très vieille, ou 45-46 ans au plus, la femme avait une figure si bonne, si ouverte, si ronde, bref, si russe. Elle souriait avec tant de bonté et saluait si simplement qu'Ivan Ilitch, de nouveau à son aise, recommença à espérer. « Vous êtes sans doute la mère de votre fils, » balbutia-t-il en se levant. « Oui, votre Excellence, » balbutia Pseldoninov en étirant son interminable cou. « Ah, ah, très heureux de faire votre connaissance, madame. » « Allons, votre Excellence, daignez nous faire l'honneur d'une coupe. »« Ah, avec grand plaisir !» Le plat fut posé sur une table qu'on venait d'apporter, et, sautillant, Pseldoninov accourut pour verser le vin. Ivan Ilitch, toujours debout, prit une coupe et se disposa à prononcer un petit discours. « Je suis particulièrement heureux !» « Particulièrement, commença-t-il, de pouvoir témoigner ici, bref, comment ma qualité de chef, je vous souhaite, madame, » ici le général s'adressa à la jeune mariée, « et à toi, mon ami Porphyre, » il tourna la tête dans la direction du mari, « je vous souhaite une très longue vie de bonheur, longue. » M. Bralinski mit du sentiment à vider la coupe qui, entre nous, était en septième de la soirée. Le vin versa un peu de gaieté dans son humeur tragique, mais, de nouveau, l'air morne de Pseldoninov anéantit le général, qui ressentit un véritable afflux de haine devant cet être incolore et misérable. « Et ce dégingandé qui reste toujours là, » se dit-il, en jetant un regard à l'officier, « mais pourrait-il pas crier « Hourra !» et tout irait pour le mieux ?» La vieille mère s'adressait maintenant au chef de bureau. « Vous aussi, Akim Pietrovitch, daignez prendre une coupe. Vous êtes le chef et mon fils est le subordonné. Veuillez donc l'avoir toujours à l'œil. C'est une mère qui vous le demande. Ne vous oubliez pas à l'avenir, mon bon Akim Pietrovitch. « Homme sensible et généreux que vous êtes. »« Mais elles sont fameuses, ces vieilles femmes russes, » songea Ivan Ilitch. Celle-ci vient de ranimer tout ce monde. Bon, j'ai toujours aimé le peuple, termina-t-il attendri. À ce moment, un plat nouveau fit son apparition sur la table. Il avait été porté par une fillasse vêtue d'une crinoline en cretonne qui, non encore lavée, faisait un bruit sec. La servante avait de la peine à tenir le plat. Grand et lourd, il supportait une quantité infinie de petites assiettes chargées de pommes, de bonbons, de marmelades, de noix, etc. Ces douceurs, destinées aux dames, était demeuré jusqu'ici dans le petit salon. L'arrivée du général avait été cause de ce déménagement fortuit. « Ne dédaignez pas nos humbles friandises, votre excellence, car, comme on dit, on offre ce qu'on peut. » Tout en invitant de la sorte, la vieille ne cessait de s'incliner. « Comment donc, mais avec plaisir, madame, » répondit Ivan Ilitch, qui, prenant une noix, chercha à l'écraser entre ses doigts, dans l'espoir que ce geste simple contribuerait à le rendre populaire. Illusion que le pauvre général caressait encore, mais, malgré les déboires rencontrés, soudain la jeune mariée poussa un petit rire. « Qu'y a-t-il ? » demanda Ivan Ilitch, souriant et se réjouissant de cet indice de la vie renaissante. « C'est Ivan Kostenkitch qui me fait rire, » répondit-elle en baissant la tête. En effet, le général venait de remarquer un jeune homme d'un blond fade, pas trop mal de figure, qui dissimulait derrière le canapé et chuchotait quelque chose à la petite mariée. Un silence, et ce jeune homme se dressa, visiblement intimidé. « J'étais en train de lui parler de la clé des songes, » murmura-t-il en s'excusant. « De quelle clé des songes voulez-vous parler ?» demanda Ivan Ilitch condescendant. « Une nouvelle clé des songes, un livre qui vient de paraître, votre excellence. Je disais à madame que voir en rêve Monsieur Panaïev, cela voulait dire qu'on verserait du café sur son jabot. » « Quelle naïveté !» s'étonna par-devers lui Ivan Ilitch, redevenant hargneux. Le jeune homme, bien que rougissant, paraissait heureux jusqu'à l'impossible d'avoir pu placer son histoire de M. Panaïev. « Oui, j'ai compris, » répondit son Excellence, qui dissimulait sa mauvaise humeur. « Non, il y a mieux !» dit une voix tout près du général. On est en train d'éditer un nouveau dictionnaire auquel doivent collaborer M. Krajewski, Alferaki et d'autres. Cette phrase avait été prononcée par un jeune homme qui non seulement n'avait pas l'air gêné, mais tout au contraire très à son aise. Portant un billet gilet blanc, il tenait son chapeau dans sa main gantée. Il ne dansait pas, regardait le monde d'en haut, étant donné qu'il se disait collaborateur du journal satirique Le Brandon. Lui aussi était un invité de marque et se trouvait là en qualité d'ancien ami de Pseltoninov, en compagnie de qui il avait mangé de la vache enragée dans de vagues chambres meublées tenues par une dame allemande. Il ne dédaignait cependant pas se rafraîchir et, dans ce but, disparaissait de temps en temps dans une chambre voisine où il y avait de la vodka à l'usage des invités mâles, chambre dont tous ils connaissaient le chemin. Le général le trouva point à son goût. « Et c'est d'autant plus drôle, » intervint à nouveau le jeune homme blond fade qui venait de parler rêve et jabot, et qui, à cause de cela, fut gratifié d'un regard haineux du journaliste. C'est d'autant plus drôle que M. Krajewski ignore l'orthographe et... » Mais le pauvre ne termina pas sa phrase, car déjà il avait compris que le général savait tout cela depuis longtemps. Il l'avait vu au regard de celui-ci, qui venait de rougir à la pensée d'être pris pour un ignorant à qui on compte des choses universellement connues. Le jeune homme devint extrêmement confus, se dépêcha de disparaître et son front ne se dérida point de toute la soirée. Mais en revanche, le collaborateur du Brandon s'approcha davantage tout en manifestant quelques velléités de s'asseoir à côté de son excellence, à qui tant de sans-gêne déplaisait visiblement. Afin de masquer son mécontentement, le général décida de dire quelque chose. Dis donc, Porphyre, pourquoi, moi j'ai toujours voulu te le demander, t'appelles-tu Pseldonimov et non Pseudonimov? Mais je ne peux pas répondre au juste, balbutia l'interrogé. Akim Pietrovitch jugea bon d'intervenir. Bon, c'est une erreur qu'on a dû faire au moment où son père se venait inscrire pour le service, expliqua-t-il. Et c'est notre Porphyre Pietrovitch qui se voit obligé d'en supporter les conséquences. Oh, cela arrive parfois, Votre Excellence. Vraisemblablement, s'écria le général avec une chaleur qu'il supposait être très communicative et qui, selon ses prévisions, devait provoquer un mouvement de curiosité générale. Vraisemblablement, car jugez-en vous-même. Pseudonymov provient du mot littéraire pseudonyme, tandis que Pseldonymov ne veut rien dire du tout. Pour cause d'imbécilité, susurra Akim Pietrovitch. Mais de quelle imbécilité voulez-vous parler? De l'imbécilité du peuple russe, Votre Excellence. Elle a fait que ce peuple a pris l'habitude de changer certaines lettres et de prononcer les mots à sa façon. Ainsi, il dit névalide et au lieu d'invalide. Ah oui, très bien, oui, névalide. On dit aussi « numéro » au lieu de « numéro », Votre Excellence, tourna soudain le grand officier qui, depuis longtemps déjà, cherchait une occasion de se distinguer. « Comment dites-vous ça, numéro ?»« Oui, numéro au lieu de « numéro », Votre Excellence. »« Ah oui, numéro au lieu de « numéro ». »« Ah oui, Et Ivan Ilyitch se trouva dans l'obligation de rire à l'intention de l'officier. Heureux à en mourir de congestion, celui-ci, afin de calmer son émotion, chercha à réparer le désordre imaginaire de son hausse-col. « Bon, dites encore, » intervint le collaborateur du Brandon. Mais son Excellence feignait de ne pas l'entendre, car vraiment elle ne pouvait rire à l'intention de chaque invité. « Nalgré, au lieu de malgré, » insista le collaborateur visiblement impassionné. Ivan Ilyitch le mesura d'un regard sévère. « Mais t'as pas fini de l'ennuyer, » chuchota Pseldonimov. « Eh bien quoi, on peut plus causer ?» dit l'autre furieux. Il se tut, se renfrogna et, quittant le cercle des courtisans de son Excellence, se dirigea vers la chambre cuisine. Arrêté sur le seuil, il lança au satrape un dernier regard de mépris et délibérément entra dans la petite chambre où l'on avait, dès le début de la fête, disposé à l'usage des danseurs, une table recouverte d'un apron de jaslow, garni de deux genres de vodka, de harangue, de caviar et de vin de xérès. Le cœur rempli de fureur, le journaliste versait un verre, quand soudain un étudiant apparut, les cheveux en désordre. C'était le premier danseur de cancan au bal de Pseldonimov. Le nouvel arrivant, mu, on aurait dit, par une soif ardente, se précipita sur la carafe de vodka. « On va commencer !» s'écria-t-il précipitamment. « Viens voir !» « Je vais faire un solo, les jambes en l'air et après le souper, je risquerai le poisson. » Le verre vidé déjà, il en versait un autre. « Elle n'était pas tendre, cette Cléopâtre Semenovna. On peut tout risquer avec elle. » C'est un rétrograde, répondit le journaliste, qui d'un air sombre venait d'avaler sa vodka. Mais de quel rétrograde veux-tu parler ? Ben, du personnage devant qui on a placé la marmelade et les doigts. Je te dis que c'est un rétrograde. Allons, allons, toi, fit l'étudiant, qui, ayant entendu le signal du canari, se précipitait dehors. Demeuré seul, le journaliste versa un nouveau verre de vodka. Il était décidé à faire appel à tout son courage ainsi qu'à ses sentiments d'indépendance. Il but, mangea quelques bribes de hareng. C'est alors que le conseiller d'État effectif Ivan Ilitch Pralinsky aurait pu voir se dresser devant lui un ennemi implacable et terrible, dissimulé pour le moment sous la personnalité du collaborateur du Brandon. Hélas, le pauvre Ivan Ilitch ne se doutait de rien. Il ne se doutait même pas qu'un autre événement considérable allait influencer les relations mutuelles entre lui et les invités de M. Pseldonimov. Bien qu'Ivan Ilitch eût donné des explications à peu près plausibles sur sa présence à la noce de son subordonné, ces explications n'avaient satisfait personne. Les convives demeuraient toujours dans une sorte de gêne. Quand, soudain, tout changea comme par enchantement. Une simple phrase lancée par on ne sait qui calma aussitôt toutes les incertitudes et les gens de la noce revinrent à leur rire, hurlement et contorsion, comme si l'hôte inattendu n'était pas dans la salle. La cause de changement si brusque venait d'une vague insinuation chuchotée. Le personnage avait un peu bu. Et bien que cette nouvelle parut de prime abord être une effroyable calomnie, elle ne manqua pas de paraître vite vraisemblable. Et tout devint clair. Alors l'assistance s'étant délibérément et instantanément de toute contrainte, le quadri vers lequel nous avons vu se précipiter l'étudiant reprit de plus belle. À ce moment même, Ivan Ilitch s'adressait à la jeune mariée pour lui chuchoter un madrigal bien tourné. Il ne put cependant le terminer, car son interlocutrice était délibérément accostée par le grand officier, qui, s'étant mis sur un genou, l'invita pompeusement à la danse. Elle se dressa aussitôt et s'envola pour se placer dans les rangs des danseurs. L'officier ne s'était pas excusé, et Madame Pseldonimov n'avait point daigné regarder le général et faisait « horreur !» mine d'être heureuse qu'on la débarrassât d'un gêneur. Le premier mouvement de stupeur passé, le brave général chercha à excuser la jeune femme. Bah, « elle est bien dans son droit, se dit-il, d'autant plus que ces pauvres gens sont loin de connaître les lois de la bienséance. » Puis, s'adressant à Pseldonimov, qui, toujours silencieux, s'étirait devant lui comme une corde de violon bien tendue, « Et toi, frère Porphyre, oh, si tu as quelques ordres à donner, ne te gêne pas, va-t'en. » « Il a vraiment l'air de me surveiller, ce lascar-là, » songea-t-il à part lui. Il faut dire que le spectacle de ce cou démesuré, ainsi que de ses yeux continuellement fixé sur lui, était devenu insupportable au général. Bref, bien que toutes choses fussent loin d'être comme il l'eût voulu les voir, le général s'obstinait néanmoins à ne pas vouloir se l'avouer.